Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Conditions précaires pour plus d'un million de déplacés dans différents sites en Ituri. L'aide alimentaire en leur faveur a été suspendue à cause de l'insécurité. Du coup, on enregistre notamment des décès dus à la malnutrition, l'alerte et de la coordination de la société civile dans la zone. C'est pour demain, 26 mai, l'élection du gouverneur, vice-gouverneur et des sénateurs de Maïndombé. Le cadre de concertation provinciale de la société civile appelle au calme et à la paix commune, appel lancé à la suite des discours de haine et menaces verbales répandues par les partisans de tel ou tel autre candidat à travers la ville d'Inongo. Et puis, l'invité de ce midi, Blanchard Takatela, député provincial élu de Boulungu dans le Kwilu. Il nous parle notamment du blocage dans l'organisation de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Plus +1,6 million déplacés qui ont fui les atrocités des groupes armés depuis 2017 vivent dans des conditions précaires dans différents sites. La coordination de la société civile qui tire la sonnette d'alarme déclare que cette situation est consécutive à la suspension de l'aide alimentaire par les humanitaires et la difficulté d'accès dans certaines entités à cause de l'insécurité. Le coordonnateur de cette structure demande au futur gouvernement d'assumer sa responsabilité en imposant la paix dans cette province, cela en vue de permettre aux déplacés de regagner leur milieu d'origine. Le point de la situation avec Isaac Remoyope.
Ces déplacés sont disséminés dans 57 sites dans les différents territoires Djougou, Irumo, Mambasa et Maagi. D'autres, dont le nombre n'est pas déterminé, sont installés dans des familles d'accueil ou sont réfugiés en Ouganda. Ces déplacés internes vivent dans des conditions difficiles, pas des vivres et des médicaments. Conséquence, les cas de décès sont récurrents dans ces sites, déclare son coordonnateur. Par exemple, au site de Nyamoussassi à la plaine du lac Albert, plus de 70 personnes sont déjà mortes depuis janvier suite à la malnutrition, à l'anémie et autres maladies. Ceux qui se rendent dans leurs champs pour chercher des vivres tombent souvent dans l'embuscade des hommes armés qui s'attaquent même au site, ajoute la même source, ce qui réduit sensiblement la résilience de ces sinistrés. La plupart des enfants de ces déplacés ne vont plus à l'école depuis 5 ans. La coordination de la société civile de l'Ituri lance un appel au chef de l'État et au futur gouvernement en vue de mettre fin au calvaire de ces déplacés qui aspirent à la paix. Diedonné Lossa.
Il y a des déplacés qui vivent dans des conditions infrahumaines car ils sont souvent tués, violés, kidnappés soit au chat, sur la route. Les affaires de déplacés vagabondent dans les rues de la ville de Bounia, quémandant de l'argent à cause de la faim et suffisance d'aide humanitaire.
De nouveaux déplacés sont enregistrés presque chaque mois suite aux incursions surtout des rebelles ADF dans les territoires d'Irumu et de Mambasa. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Situation humanitaire également à Minova dans le sud Kivu. Cette cité du territoire de Calais est voisin à Massissi dans le nord Kivu. Enregistre aujourd'hui 60 000 personnes déplacées. C'est ce qu'indique l'administrateur du territoire de Calais en visite hier à Minova. Thomas Bakenga dit apprécier les efforts d'aide humanitaire fournis par quelques organisations sur place. Mais le besoin reste encore énorme au regard du nombre élevé des déplacés venus des villages affectés par la guerre du M23 dans le Massissi. On écoute Thomas Bakenga, administrateur de Calais, joint par Jean Kassami.
Nous sommes venus évaluer la situation des 600 000 déplacés, évaluer les situations des inondations. Et sur le plan des déplacés, nous avons constaté qu'il y a plus de 600 000 déplacés qui sont cantonnés spontanément dans plus de 68 sites. Et se déplacer, ils sont en difficulté évidemment des assistances humanitaires. Nous avons enregistré quand même quelques humanitaires qui ont accepté de s'aligner. Et c'est le cas de Save the Children. Il y a CICR, il y a PAM qui venait aussi de nous aider avec l'accompagnement des AIDS. C'est-à-dire nous avons maintenant là pour le moment une assistance de près de 52 000 ménages. Donc 52 000 ménages contre 600 000, c'est encore trop peu. Là, on ne parle pas des familles d'accueil, parce que tout le monde maintenant à Minova semble être dans des situations vraiment de vulnérabilité. Et donc, nous invitons les humanitaires de venir en urgence parce que ça ne va pas.
Entre-temps, sur le terrain dans le Massissi et aussi dans le retour au nord Kivu, une accalmie est observée ce samedi sur différentes lignes de front dans ces deux territoires. Selon des sources sur place, aucun tir n'a été entendu ni bombe larguée sur les collines surplombant l'axe Minova-Bweremana-Chacha qui ont été le théâtre des affrontements le jeudi entre l'armée congolaise appuyée par ses partenaires locaux et les rebelles du M23 RDF. En revanche, certaines sources dans la zone de Minova disent que le site minier de Lumbishi, situé dans le groupement Bouzi, territoire de Calais au sud Kivu, serait passé entre les mains du M23 depuis hier. Cependant, il est difficile de confirmer l'information. Notez que Lumbishi est un site stratégique d'extraction de minerais, notamment de l'or, cassitérite, coltan, tourmaline et manganèse. Du côté du territoire de Rutshuru, on observe également une accalmie autour de la Ruindi ce samedi, selon des sources concordantes dans la région. Ces sources précisent que les rebelles occupent toujours la Ruindi. Je vous l'ai dit dans les titres, à la veille de la tenue des élections du gouverneur, vice-gouverneur et des sénateurs de Maïndombé, scrutin prévu demain dimanche, le cadre de concertation provinciale de la société civile appelle les uns et les autres au calme et à la paix commune. Cela après avoir constaté plusieurs discours de haine et menaces verbales répandues par les partisans de tel ou tel autre candidat à travers la ville d'Inongo, chef-lieu de Maïndombé. Le président du cadre de concertation provinciale de la société civile pense que ces menaces risquent de causer du désordre le jour du vote. Isidore Bolikala appelle au calme au micro de Irène Boma.
Nous constatons qu'il y a des violences verbales, des camps qui se jettent des sorts et ces violences ne nous mettent pas à l'aise. Des injures, et puis les autres font vanter tout ce qu'ils ont, et pas les autres critiquent l'autre camp. Et nous constatons que si les deux cas s'affrontent, ça peut amener à des grands désordres dans la ville. Comme d'habitude, nous, la société civile, tout ce que nous leur demandons, c'est il faut qu'ils cessent avec des menaces verbales. Nous comprenons bien que le rôle des candidats, que ce soit gouverneur ou sénateur, c'est de présenter leur projet de société auprès des grands électeurs afin que le projet de société soit soutenu et à ces mots-là, on va les élire. Mais tous ces camps qui sont en train de se jeter des sorts, ça n'aboutira à rien. Et nous craignons qu'il y ait des désordres qui peuvent surgir sur tous les grands jours, le jour des élections. C'est comme ça que nous interpellons à tous les partisans de garder calme et silence. Et sur tous les leaders politiques, c'est-à-dire les candidats gouverneurs, les candidats sénateurs, que chacun, à ce qui les concerne, ils conscientisent sa base pour que cette journée soit une journée de paix, de tranquillité, afin que les opérations passent avec quiétude.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, la majorité des habitants des Supakalaou ont des cartes d'électeurs devenues illisibles. La même situation est déplorée par des habitants de plusieurs localités de Beniville et territoires. Les détenteurs de ces cartes d'électeurs, qui font office de cartes d'identité, disent être victimes de tracasseries de la part des services de sécurité. En réponse, la chef d'antenne de la CENI dans le territoire de Beni invite toutes les personnes qui ont perdu leur carte d'électeur ou dont les écrits sont effacés à se rendre au bureau de la CENI de son entité pour obtenir un duplicata. Mami Katungu l'a dit au micro de Marc Marofimbo.
Nous sommes en période de l'impression des duplicata. Tout le monde qui sait ça avec la carte effacée, qui vient au bureau de la CENI à Ouicha pour retrouver son duplicata. Le duplicata n'a aucune condition. La condition en est que tu viens avec l'attestation de perte des pièces à celui qui a perdu la carte. Mais si ta carte est effacée, tu détiens cette carte effacée, tu vis avec cette carte effacée, on va la remplacer avec une nouvelle carte, les duplicatas. Celui qui n'a pas de carte effacée, qu'il passe à la police, soit à la commune, récupérer l'attestation de perte des pièces. Maintenant, cette attestation, nous allons lui délivrer les duplicatas. Sa condition.
Dans l'actualité aussi, lancement officiel hier à Kinshasa des assemblées provinciales citoyennes sous l'initiative du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS et des organisations de la société civile devant le risque que présente la démocratie représentative en RDC de tomber dans ce qu'il qualifie de déresponsabilisation collective. Le directeur du CEPAS lance un appel à la prise de conscience de tous les Congolais pour qu'ils deviennent acteurs du changement et du développement de leurs milieux respectifs. Selon le père Alain Nzadi Anzadi, les assemblées provinciales citoyennes permettront aux Congolais de se mettre ensemble à partir de la base pour discuter sur les initiatives à entreprendre et proposer des solutions à leurs problèmes. On écoute le directeur du CEPAS dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Alors le risque dans ce genre de démocratie représentative, c'est de tomber dans une sorte de déresponsabilisation collective, c'est-à-dire le peuple se sent comme un spectateur. Pour éviter cette sorte de léthargie, nous avons pensé à cette initiative pour que la population dans son ensemble se sente responsable du changement, du développement de ce pays, puisque nous sommes tous des acteurs au niveau local. Ces assemblées provinciales citoyennes, c'est des structures pas seulement de réflexion sur les questions de société, pas seulement des cercles pour réfléchir, mais c'est aussi des lieux où on peut avoir des initiatives capables de changer, par exemple, un quartier. Commencer par identifier les problèmes qui appellent au changement au niveau local, au niveau d'un quartier, et alors réfléchir ensemble avec les autres sur comment on peut trouver des solutions à ce genre de problème. C'est un peu une démocratie directe, voilà, pour que ce changement-là advienne.
Direction la province du Tanganyika, nous apprenons qu'à Kalemie, le grand bâtiment qui abrite le centre des jeunes est abandonné. Depuis plusieurs mois, des inconnus pillent ce bâtiment. Ils emportent des portes, des fenêtres et arrachent des installations électriques. Ce centre symbolise l'unité et la solidarité des jeunes de la ville de Kalemie. Paulin Munanga nous en parle dans ce reportage.
Situé au quartier Filtizaf dans la ville de Kalemie, le centre des jeunes du Tanganyika a été construit par la fondation Francine Muyumba et inauguré en septembre 2022. Cet imposant bâtiment est composé d'une grande salle polyvalente d'environ 400 places assises, de 4 bureaux, d'autres pièces et de plusieurs toilettes. Le bâtiment est entièrement carrelé. Plus d'une année après son inauguration, le centre des jeunes est à l'abandon. Il n'y a personne pour l'entretenir ou le sécuriser. Plusieurs portes et fenêtres volées, des installations électriques arrachées, des plafonds tombent et l'herbe pousse autour du bâtiment. Albert Sangwachenge, premier vice-président du conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika, est l'un des membres du comité qui gère ce centre. Il donne les raisons qui expliquent l'abandon du bâtiment qui abrite le centre des jeunes.
Nous avions tenté par nos petits moyens d'assainir ces milieux et voir à la mesure du possible comment on pouvait même sécuriser ce centre des jeunes, parce que nous devons le rappeler ici que depuis l'inauguration de ce centre, il n'y a jamais eu des agents de sécurité. Pourtant, nous avons quand même un ministre des jeunes qui est là, mais personne n'a jamais pensé à sécuriser cet endroit pour le bien de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on pense que la jeunesse a assez de moyens, la jeunesse peut se prendre en charge.
Kalemie, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Congo central, l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, a lancé hier, depuis la forêt de Mayombe, dans le territoire de Lukala, des premières exportations du café Petit Kwilu à destination de Dubaï. D'après la directrice générale de l'ONAPAC, qui a procédé au lancement, le café Petit Kwilu est de la famille Robusta à petits grains, cultivé exclusivement en République démocratique du Congo et spécialement dans la forêt du Mayombe au Congo central. Mimi Numbi appelle les Congolais à prendre soin de cette culture, car ces importations ouvrent pour la RDC une porte sur les marchés internationaux des produits pérennes. Nana Pluriche Mambou nous en dit plus.
Selon la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, c'est à Dubaï, aux Émirats arabes unis, que vont les premières importations du café Kwilu. Pour Mimi Numbi, ce café produit exclusivement dans la forêt de Mayombe en territoire de Lukula est une carte postale pour la RDC qui doit être protégée par les Congolais.
Que le petit Kwilu, qui est de la famille Robusta, est un café qui s'est déjà dégusté dans plusieurs salons internationaux à plus de 70% vis-à-vis de ses pairs Robusta. C'est un café extraordinaire. Quand vous le mélangez avec l'Arabica et le Robusta, ce petit café rehausse les goûts. C'est une carte postale pour la République démocratique du Congo qui doit être protégée par les Congolais, car cette espèce ne se retrouve qu'en RDC, spécialement dans la forêt du Mayombe. Lukula.
Après Lukula, Mimi Numbi a présenté dans la ville de Boma les laboratoires innovés des produits agricoles pérennes de l'ONAPAC et a aussi lancé la brigade. Cette brigade anti-fraude sera déployée à Lukula et à Tchela en vue de lutter contre les mauvaises pratiques au cours de la campagne de production du café Petit Kwilu. Financé par l'Union européenne, les projets sur la promotion de la culture du café Kwilu s'étend au-delà de 1000 hectares et encadre plus de 50 villages à Lukula. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la direction hygiène et salubrité publique du ministère de la Santé recommande aux femmes et jeunes filles une bonne hygiène lors de leurs menstrues. L'experte au sein de cette direction, Marceline Lusamba, a fait cette recommandation hier lors d'un briefing organisé en marge de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, journée célébrée le 28 mai de chaque année. Elle a fait savoir que la bonne gestion des règles permet aux femmes et filles de se prévenir des infections urinaires et autres. Marceline Lusamba explique au micro de Blaise.
Quand on ne change pas ses bandes régulièrement, les filles peuvent faire des infections urinaires. Donc l'infection, c'est la grande conséquence par rapport à la mauvaise gestion des règles. Et puis on peut mettre l'absentéisme à l'école. Et aux filles, je dis, il faut être fière d'avoir ces règles. Les règles sont naturelles. Quand vous avez un certain âge et que vous n'avez pas vos règles, c'est un souci. Et aux autorités, nous demandons à faciliter cet accès aux ouvrages qui permettent aux femmes et aux filles de bien gérer les règles, que ce soit sur le milieu de travail, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans la communauté ou dans les établissements de soins. Nous célébrons la journée dans le cadre d'un grand projet du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui est le projet PASEA. Et il va construire des latrines qui permettent aux filles de gérer leurs règles à l'école dans les centres de santé.
En RDC, notez que cette journée est célébrée cette année sous le thème « L'éducation sur la menstruation change tout ». On va passer à l'actualité en dehors de nos frontières. Nous sommes en Tanzanie. Un court-circuit électrique dans une usine de sucre a déclenché une explosion cette semaine, tuant 11 travailleurs, dont 3 ressortissants étrangers, a indiqué la police. Les 3 étrangers étaient originaires du Kenya voisin, du Brésil et de l'Inde. 2 autres travailleurs ont été blessés dans l'explosion et ont été soignés à l'hôpital de Morogoro. Mtibwa est l'une des principales usines sucrières du pays, produisant au moins 70 000 tonnes de sucre par an, selon les données du gouvernement tanzanien.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Blanchard Takatela, député provincial élu du territoire de Bulungu dans la province du Kwilu. Il nous parle de la situation politique dans cette province, principalement du blocage dans l'organisation de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Blanchard Takatela est avec Paul Matendo Mayamba.
Blanchard Takatela, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous parlez de la situation politique de la province du Kwilu et vous dites que cette province est bloquée. Comment vous expliquez cela?
La province du Kwilu est vraiment bloquée, puisque vous savez que toutes les provinces ont au moins des institutions politiques et officielles. C'est l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial aussi. Et quand ces deux institutions-là sont opérationnelles, la province vit aussi. Mais quant à nous, au Kwilu, notre province du Kwilu est bloquée par le fait que l'Assemblée provinciale est paralysée, puisque jusqu'à présent, nous demeurons dans le système, disons, provisoire. Nous avons jusque-là un bureau provisoire du fait de l'annulation des élections à Massimanimba. La CENI s'est arrangée pour interdire au bureau provisoire de ne pas organiser l'élection du bureau définitif. Elle a écrit au président de l'Assemblée provinciale, au président du bureau d'âge, le professeur émérite honorable Ntsaman. La CENI lui a écrit en réservant copie à la présidente de la République, réservant copie à toutes les grandes institutions de la province, plutôt de la République, pour que les bureaux provisoires ne puissent pas organiser l'élection du bureau définitif. Or, le fait de ne pas organiser l'élection du bureau définitif, cela veut dire que elle nous empêche, nous, d'organiser l'élection des sénateurs et des gouverneurs des provinces qui ont eu lieu le 29 avril passé.
Vous dites que c'est la CENI qui a interdit l'organisation des élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Selon vous, comment la CENI explique cette situation?
La CENI a avancé l'argument tel que, comme il n'y a pas Massimanimba, il n'y a pas les élus de Massimanimba, l'Assemblée provinciale du Kwilu ne peut pas organiser l'élection soit de son bureau et continuer avec l'élection des sénateurs et des gouverneurs. Du fait que la CENI nous a empêchés, nous a interdits, nous demandons aussi à la CENI, par un parallélisme qui est logique, considérant que Massimanimba est un territoire de la province du Kwilu, nous prenons aussi la province du Kwilu comme une province active au niveau du Sénat. Dès lors que Massimanima n'a pas encore ses élus provinciaux, le Kwilu aussi n'a pas ses sénateurs. Nous allons demander aussi à la CENI, de la même façon qu'elle a écrit au bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Kwilu, d'écrire aussi au bureau provisoire du Sénat de ne pas organiser les élections du bureau l'élection plutôt du bureau définitif du Sénat, du fait que la province du Kwilu étant absente. Puis c'est les 10 fils du Kwilu qui seront élus comme sénateurs, pouvant aussi briguer un poste à ce bureau-là de Sénat.
Au niveau du collectif des députés provinciaux, quelle est l'alternative que vous proposez à la CENI pour débloquer cette situation?
Les démarches menées par les députés provinciaux auprès d'elle, on lui avait demandé, en attendant l'élection de Massimanima, laquelle élection d'ailleurs, nous ne savons pas si elle aura vraiment lieu, puisque la CENI est en train de réclamer de l'argent à tout moment qu'elle n'a pas l'argent. Et nous nous disons, si la CENI n'est pas prête, même si elle est prête, est-ce qu'il n'y a pas moyen que la CENI fasse retourner d'abord les élus provinciaux de la législature passée de Massimanima, qu'ils viennent siéger avec nous, afin de nous permettre d'organiser l'élection des bureaux définitifs et aussi d'organiser l'élection des sénateurs et des gouverneurs pour la province du Kwilu. Et après, quand il y aura élection à Massimanima, les collègues de Massimanima qui sont aussi candidats pourront rentrer chez eux pour battre campagne, se faire élire. Ceux qui seront élus vont revenir à l'Assemblée provinciale et ceux qui ne seront pas élus se verront remplacés par les nouveaux élus. Voici, c'est tout ce que nous demandons pour ne pas laisser la province du Kwilu dans cette situation, puisque nous ne sommes pas trop sûrs avec les calendriers de la CENI, lesquels calendriers ont été modifiés plusieurs fois, et aussi la CENI qui réclame l'argent à tout moment.
Blanchard Takatela, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était là notre invité, le député provincial élu de Bulungu dans le Kwilu, Blanchard Takatela. Il répondait aux questions de Paul Matendo Mayamba. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.